Loué et remercié soit le Seigneur pour la merveilleuse espérance et la confiance qu'il nous permet de porter en nous. Il a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre auprès de moi, afin que vous soyez aussi où je suis. Nous croyons qu'il tiendra sa promesse et nous croyons que cela se produira à notre époque. J'y crois avec une conviction totale sur la base de la parole de Dieu. Et que les sceptiques disent, cela a toujours été affirmé. Les croyants le disent depuis des siècles et l'attendent. Mais il y a des siècles, la prophétie biblique ne s'était pas encore accomplie. C'est maintenant le temps, c'est aujourd'hui que la parole de Dieu s'accomplit dans toute sa diversité. Et le Seigneur lui-même a dit, quand vous verrez toutes ces choses, relevez la tête, car vous savez que votre rédemption approche. D'autres l'ont supposé. Nous le savons. Mais nous, nous le savons, c'est la différence. Alors, vous savez. Vous ne pensez pas, alors vous savez que votre rédemption approche. Il existe une connaissance bienheureuse, une conviction fondée sur la Bible, fondée sur la parole infaillible de Dieu. Et que les gens se moquent de nous, à ce moment-là, notre bouche sera remplie de rire et notre langue de louange. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, aujourd'hui nous sommes parfois un peu, on ne devrait pas le dire ici, stupides, mais alors ce seront les autres qui seront stupides et nous nous réjouirons et serons avec le Seigneur pour toujours. Paul a écrit, consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Il y a là, en même temps, une consolation. Nous avons déjà chanté de magnifiques cantiques. Ils étaient déjà dans la direction dans laquelle l'Esprit de Dieu souhaite nous conduire. En particulier, le cantique que nous avons chanté sur l'huile de la joie. Cela m'a fait penser à Matthieu 25. Les uns avaient suffisamment d'huile, les autres non. Les uns sont entrés dans la gloire pour le festin de noces, les autres non. Quelle parole sérieuse. Aujourd'hui, cela se trouve dans Matthieu 25. Demain, cela peut déjà être une réalité que les uns soient entrés au festin des noces et les autres soient restés en arrière. Demain, la parole qui se trouve aujourd'hui dans Matthieu 25 peut être pour les uns un accomplissement merveilleux, pour les autres une terrible déception. Pouvez-vous comprendre le sérieux de la prédication de l'évangile, de la prédication du plein évangile qui vise à préparer l'Église à ce jour glorieux et magnifique du retour de notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, oui, de notre époux. En ce qui concerne l'épouse, il est l'époux. Et c'est pourquoi l'Écriture parle du festin des noces. Tous les termes ont toujours leur place. Si nous avions appris à toujours laisser chaque terme là où il est écrit, dans le contexte auquel il appartient, cela nous aiderait déjà. Ne restez pas tendus ici, mais détendez-vous et laissez la parole du Seigneur vous parler. Je voudrais commencer par le passage de Zacharie, chapitre 4. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Il me donna cette information. Ainsi parle le Seigneur à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit que... Ainsi parle le Seigneur des armées. Ce n'est pas un grand évangéliste, ni un prophète, c'est le Seigneur lui-même qui veut agir puissamment par son esprit et accomplir tout ce qui est nécessaire, car ce qui est spirituel ne peut être accompli que par l'esprit. Et nous avons en effet besoin d'une action directe du Saint-Esprit venu du ciel, maintenant, à la fin, comme c'était le cas au commencement. Dans le même prophète Zacharie, au chapitre 10, il est écrit, j'y ai pensé quand on chantait la pluie de bénédiction doit tomber. Zacharie, chapitre 10, verset 1, demandez au Seigneur la pluie, dans le temps de la pluie de l'arrière-saison et de l'avant-saison, donc les deux, non seulement la pluie de l'avant, mais la pluie de l'arrière-saison. Dieu a promis les deux dans sa parole. Et la pluie de bénédiction est toujours associée à l'effusion et à l'action du Saint-Esprit. Nous avons des passages particuliers de l'Écriture auxquelles nous devons prêter attention. Je voudrais en lire quelques-uns. Par exemple, Ésaïe, chapitre 44. Ésaïe, chapitre 44, verset 3. Car comme je répands l'eau sur la terre assoiffée, et des torrents sur la terre desséchée, ainsi je répandrai mon esprit sur ta semence et ma bénédiction sur tes rejetons. Avec l'effusion du Saint-Esprit, donc la bénédiction de Dieu est liée à l'effusion de l'Esprit, et cette bénédiction doit venir sur la semence divine et venir en abondance. Et je demande vraiment à tous, du fond du cœur, de ne pas laisser place à la pensée « Oh, je ne suis pas encore comme je devrais être, et ceci et cela ne me plaisent pas encore dans ma vie, et certainement pas non plus au Seigneur. » Faisons confiance à Dieu. Nous nous réunissons justement pour recevoir de l'aide, afin que l'Esprit de Dieu puisse continuer à agir en nous. Si tout était déjà en nous, d'une manière que nous plaisions vraiment à Dieu en tout, alors il aurait pu se passer comme pour Enoch que Dieu nous ait déjà pris. Mais il attend le jour où il nous prendra auprès de lui dans sa gloire. Ces passages bibliques que nous avons déjà lus sont très clairs. Dieu veut répandre son esprit, et ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Cela doit et ne peut se faire que par l'Esprit de Dieu, toujours en accord avec la parole de Dieu. Et nous allons aujourd'hui avoir une étude biblique en toute tranquillité devant la face de Dieu. Il n'est pas toujours nécessaire de prêcher avec toute sa force. Nous pouvons avoir ici, en présence de Dieu, une méditation sur la parole, mais nous devons demander à Dieu de nous aider à mettre de côté nos pensées et à nous plonger dans les pensées de Dieu. Vous savez, en raison des différents enseignements et points de vue, il est tout simplement nécessaire que nous nous en débarrassions totalement et que nous pensions comme Dieu pense, que nous disions ce que Dieu a dit et que nous croyons ce que dit l'Écriture et que nous croyons comme l'a dit l'Écriture. Vous savez, il arrive souvent que lorsque l'on parle de l'expérience du baptême dans l'esprit et des dons qui ont été répandus et communiqués aux hommes, on entend l'argument suivant. Si j'ai l'amour ou le fruit de l'esprit ou les fruits de l'esprit, s'il vous plaît, mettons chaque chose à sa place. Là où elle ont leur place, les fruits de l'esprit à leur place et les dons de l'esprit à leur place. Et je tiens à le dire clairement, en réalité, nous n'aurons ni l'un ni l'autre sans le baptême du Saint-Esprit. Avez-vous entendu? Ni les fruits, ni les dons ne peuvent exister si l'esprit qui contient les fruits et les dons n'a pas été répandu. Et puis, une autre pensée très, très importante. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, il faut toujours faire attention. S'agit-il ici de l'expérience elle-même qui est redonnée ou s'agit-il ensuite de la manière dont l'Église, en tant qu'Église déjà remplie de l'Esprit, fonctionne avec les différents dons, les différents ministères et fonctions, manifestations de puissance, etc. S'il s'agit donc de l'expérience elle-même, nous devons seulement prendre les passages bibliques qui décrivent l'expérience et non pas d'autres qui ne la décrivent pas. Est-ce clair? Avez-vous tous bien dormi? Suivez-vous bien mes explications? C'est très important. Lorsque l'on lit plus loin, plus tard, la vie de l'Église, comment est-ce que Dieu a mis en œuvre les différents dons? Il n'est pas question ici de l'expérience du baptême de cet esprit, mais de ceux qui ont fait l'expérience déjà avec Dieu. Je devrais peut-être le dire clairement pour que tout le monde comprenne. Celui qui lit 1 Corinthiens 12 jusqu'au verset 28 et qui fait ensuite référence à l'expérience commet la plus grande erreur de sa vie. Car il est écrit, tous parlent-ils en langue, tous ont-ils le don de prophétie, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils apôtres? Non, Dieu a distribué les dons. Mais ce passage biblique n'a aucun rapport ici avec l'expérience du baptême de cet esprit. Elle-même, l'avons-nous compris? C'est tout simplement absolument nécessaire. Et s'il y a un domaine où la précision est de mise, c'est bien dans l'Église du Dieu vivant. Les dons que Dieu distribue par le baptême du Saint-Esprit sont différents. Vous pouvez également le constater, par exemple, si tout le monde avait eu le don de guérison, il n'aurait pas été nécessaire de transporter les gens à Jérusalem pour que l'ombre de Pierre tombe sur eux. Alors tous les croyants auraient imposé les mains aux gens en chemin, soit guéri, soit guéri, soit guéri, etc. Comprenez-vous cela? on n'aurait pas pris les mouchoirs de Paul pour les imposer aux malades si tous les croyants qui vivaient autour avaient eu le même don. Cela n'aurait alors pas été nécessaire. Chacun aurait fait ce que ces deux hommes ont fait. Non, ce n'est pas ainsi que cela se passe dans la pratique. Dans la pratique, Dieu a réparti les ministères et les dons. Un prophète n'a pas besoin d'être apôtre. Un enseignant n'a pas besoin d'être évangéliste. De même qu'un évangéliste n'a pas besoin d'être enseignant. Les tâches et les dons dans la maison de Dieu, dans l'Église, sont différents. Et puis, par exemple, lorsqu'il est question de l'expérience du baptême du Saint-Esprit ou d'être rempli du Saint-Esprit, il peut arriver que, quand on va venir en parler, il peut arriver que les gens relisent les Écritures avec leurs propres pensées et ne tirent pas la réponse de la parole de Dieu, mais sans s'en rendre compte, ils donnent leur propre réponse et répètent ce que d'autres ont dit depuis longtemps sans comprendre que ce qu'ils disent n'est pas conforme aux Écritures. Deux passages bibliques illustrant cela. Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 et 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 et 38. En entendant cela, ils eurent le cœur transpercé et ils se tournèrent vers Pierre et les autres apôtres en leur demandant: « Que devons-nous faire, frères ?» Verset 38. Pierre leur répondit: « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. » Prêtez attention à la parole. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Combien? Toute une confession de foi et probablement plusieurs autres ont fait de ce « vous recevrez » en « vous avez reçu ». Ils ont dit, donc, ils ont fait de ce « vous recevrez », ils ont fait un « vous avez reçu ». Alors, vous avez reçu le don du Saint-Esprit et ils enseignent depuis qui sait combien d'années que quiconque a été baptisé dans l'eau a été rempli du Saint-Esprit automatiquement. C'est l'enseignement de toute une confession de foi et de plusieurs autres. Ils ne prêtent pas attention aux Écritures. Ils donnent leur propre interprétation et la lisent même dans les Saintes Écritures. L'un de nos grands hommes, je crois que c'était Kant, a dit: il faut tout lire dans les Écritures, mais ne rien y lire. Il faut lire ce qui y est écrit, mais ne rien y lire, ce qui est dans notre tête. Quand il est dit ici, vous deviendrez où? Alors vous recevrez. C'est une promesse faite à l'homme qui s'est repenti, qui est devenu croyant et qui se fait baptiser dans l'eau. C'est une promesse faite à cet homme qui devient croyant. Mais cela ne signifie pas qu'il a déjà automatiquement reçu ce qui lui a été promis. Il doit d'abord en faire l'expérience personnelle réellement. Vous voyez, nous voyons la même chose chez Paul lorsqu'il est venu à Éphèse, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, où sa principale préoccupation auprès de ce groupe de croyants était la suivante: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et maintenant, La parole revient. Lorsque vous êtes devenu croyant, ou après que vous soyez devenu croyant, ou depuis que vous êtes devenu croyant, après être devenu croyant, vous voyez? Voyez-vous, lorsqu'on lit les Écritures, les Saintes Écritures, il faut prêter une attention particulière aux mots afin de ne pas passer à côté de l'essentiel et peut-être d'égarer les autres de même. Selon ce passage, on enseigne que les gens ont déjà reçu le Saint-Esprit. Paul demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ces personnes furent honnêtes et répondirent, nous ne savons même pas s'il est déjà là. Et puis, il n'y a plus eu beaucoup de discussions, juste une chose, la prière et l'imposition des mains, et l'Esprit est descendu sur eux, est tombé sur eux, et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Je voudrais justement aborder ce sujet, à savoir notre langue, qui selon l'épître de Jacques est le plus grand mal que nous portons en nous. Je ne sais pas combien d'entre vous sont conscients du mal que la langue peut causer et a déjà causé. Peut-être pas la vôtre, peut-être vous êtes l'exception louable, mais si nous sommes honnêtes devant Dieu dans sa présence, nous avons certainement tous déjà manqué de maîtrise de notre langue et nous ne l'avons pas gardé en bride à un moment ou à un autre et avons rapidement allumé un feu comme il est écrit. Et la langue est aussi le seul membre qui s'enflamme très rapidement par le feu de l'enfer. Une phrase prononcée peut rapidement déclencher une catastrophe, causer des dommages irréparables. Nous ne le remarquons peut-être pas, mais ceux qui en souffrent le savent. Et c'est précisément pour cette raison, parce que notre langue ne peut être contrôlée par nous-mêmes, que Dieu a décidé que la langue serait touchée par le feu de Dieu. Non seulement l'Esprit, pas seulement que l'Esprit se répande, mais cette langue doit être embrasée par le feu de Dieu. Embrasée, brûlée. Et dans quel but? Afin qu'elle puisse ensuite, en tant que nouvelle langue, proclamer les grandes œuvres de Dieu, la nouvelle vie divine qui est dans l'âme de l'homme, maintenant purifiée par l'Esprit de Dieu lui-même, et l'homme qui a été loin de l'Esprit peut maintenant proclamer de manière ordonnée ou légitime les choses. Il peut prêcher de manière ordonnée et légitime les choses qu'il a lui-même expérimentées avec Dieu et que le Seigneur a accomplies. C'est pourquoi la langue du croyant a en effet été saisie par Dieu dès le début. Nous ne comprenons peut-être pas tous cela, mais toutes ces choses. Mais croyez-moi, c'est très important. Le jour de la Pentecôte, les croyants n'ont pas vu apparaître des yeux de feu, des oreilles de feu ou un nez pour mieux sentir. Que s'est-il passé? Des langues, comme des langues de feu, se sont divisées et se sont posées sur chacun d'eux. Et ils ont tous ensuite été remplis du Saint-Esprit. Nous ne croyons pas, comme c'est le cas actuellement dans le mouvement charismatique, que dans ce mouvement, les têtes bougent, les têtes sont remuées et que les gens bougent aussi leur bouche d'une manière ou d'une autre et disent quelque chose. Non, nous croyons en un baptême biblique de l'Esprit et de feu, et du feu que nous faisons tous avec Dieu et nous devons tous vivre cette expérience. Vous voyez, dans le prophète Ésaïe Et dans le prophète Joël, Dieu a déjà souligné de manière très particulière dans l'Ancien Testament ce qui allait se passer. Et cela s'est produit le jour de la Pentecôte et continuera tant que l'Église du Dieu vivant sera sur cette terre. Ce qui s'est produit au commencement est valable jusqu'à la fin. Croyez-moi, l'Église primitive est l'Église modèle. Il n'y a pas d'autre modèle que celui que nous trouvons dans les Actes des apôtres. Et il n'y a pas d'autre critère pour le baptême du Saint-Esprit que celui qui nous a été laissé dans les Écritures. Nous devons nous présenter devant Dieu pour cette question, devant sa face, et croyez-moi, Dieu ne veut que notre bien. Il ne veut pas que quiconque reste. Il veut qu'au jour de son retour, ceux qu'il a aimés et racheté à Golgotha, que les siens soient conduits à lui et que son esprit accomplisse également le changement de notre corps. Je voudrais lire ce passage du prophète Joël. Chez nous, il se trouve dans Joël chapitre 3, verset 1. Dans la Bible française et anglaise, il se trouve dans Joël 2, verset 28. La répartition en chapitre est ici un peu différente. Chez nous, Joël 3, dans certaines autres traductions, Joël 2, 28. Il est écrit ici, donc Joël 2, verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ou prédiront l'avenir selon la traduction. Vos vieillards auront des révélations dans des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Et ainsi de suite, telle était la promesse faite par Dieu. Le prophète Ésaïe, au chapitre 28, a également exprimé très clairement ce que Dieu voulait faire, Ésaïe chapitre 28, et nous le remercions de l'avoir fait. Aujourd'hui, personne n'a besoin d'attendre, car l'Esprit de Dieu est répandu et est là pour nous tous. Ésaïe 28, verset 12. Oui, peut-être déjà les versets 11 et 12. Ésaïe chapitre 28, verset 11 et 12. Oui, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et à la langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Verset 12. Lui qui leur a dit, voici le lieu de repos, donnez du repos aux fatigués et voici le lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. En pensant au fait que nous partons demain pour Israël, je m'en réjouis comme rarement auparavant. J'ai relu le prophète Ésaïe, plus précisément le chapitre 2. Et là, nous avons déjà une référence à la fin des temps, mais pas seulement cela, car dans le verset 2 du chapitre 2 d'Ésaïe, il est écrit, Ésaïe 2, verset 2, « À la fin des temps, le mont du temple du Seigneur sera solidement établi au sommet des montagnes et s'élèvera au-dessus des hauteurs. Alors toutes les nations païennes afflueront vers lui. » Verset 3, « Et de nombreuses nations s'y rendront en disant, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira l'enseignement et de Jérusalem la parole du Seigneur. Nous tous qui avons déjà été à Jérusalem savons que le mont du Temple est le mont Sion, un prolongement du mont Moria, où Abraham a sacrifié son fils Isaac. Nous savons que le bâtiment du dernier souper et celui où l'effusion de l'esprit a eu lieu sont le même bâtiment et qu'il est conservé jusqu'à aujourd'hui. Je me suis rendu plusieurs fois sur le mont Sion dans ce bâtiment. C'est depuis le mont Sion, depuis Jérusalem, que la véritable doctrine, le véritable enseignement a été diffusé dans le monde entier. Je ne peux m'empêcher de faire ici la remarque suivante. C'est de Rome que la confusion et les faux enseignements se sont répandus dans le monde entier. Le véritable enseignement est parti du mont Sion, de Jérusalem, où les prophètes et les apôtres, où notre Seigneur lui-même ont marché et ont parlé. J'ai choisi Jérusalem, a dit le Seigneur. Elle est et reste la ville du grand roi. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir ramenés à l'origine, oui, au commencement. Puisse-t-il également réussir à nous y conduire, non seulement par l'enseignement ou la connaissance, mais aussi par l'expérience personnelle avec notre Dieu. Que cette expérience, avec cet effet, puisse nous être donné à tous à travers les dons et les fruits de l'Esprit, afin que nous puissions être une Église bénie par Dieu, revêtue de la puissance de l'Esprit, restant parfaitement sobre et ancrée dans l'amour de Dieu. Nous l'avons dit, à Golgotha, notre Seigneur et Sauveur a prouvé son amour pour nous. Dieu a tant aimé le monde. Et je crois que c'était hier ou avant-hier que j'ai dit au Seigneur dans la prière qu'il puisse traiter son Église avec le même amour qu'il a manifesté à Golgotha. Vous comprenez ce que je veux dire? Ignorer et pardonner toutes nos folies, nos insuffisances, nos faiblesses humaines et nos infirmités, et faire prévaloir la grâce sur la justice, comme il est écrit, la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde nous a été accordée. L'amour de Dieu n'est pas seulement écrit dans le livre de Dieu ici. L'amour de Dieu s'est manifesté à Golgotha et doit être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit dans Romains 5. Au verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, d'abord, l'effusion de l'Esprit, puis les fruits de l'Esprit. Sans l'effusion de l'Esprit, il n'y a pas de fruits de l'Esprit, ni de dons de l'Esprit. Avec l'effusion de l'Esprit, il y a les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Combien le disent lorsqu'ils lisent Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit est, etc. Et ainsi de suite, les 9 fruits de l'Esprit sont énumérés. Mais croyez-moi, même si nous pensons avoir l'amour, la joie, la paix, la question reste posée. S'agit-il de la paix, de la joie, des fruits que nous avons apporté nous-mêmes ou des fruits que l'Esprit de Dieu a produits en nous. Et je ne veux pas seulement avoir l'amour. Je veux avoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons donc besoin de l'effusion de l'Esprit. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin. Croyez-moi, dites Amen. Dites Amen de temps en temps, sinon je vais désespérer ici. Dieu est fidèle. Il a l'intention de faire jusqu'à la fin ce qu'il a fait au commencement. Quelqu'un dira peut-être, est-il nécessaire de prêcher à nouveau là-dessus? Mais voyez, il y a toujours de nous de nouveaux venus. Et nous venons de confessions très diverses et avons encore certaines choses dans nos cœurs et dans nos pensées, certaines opinions. Il faut ici une orientation vraiment biblique. Sinon, nous courons en vain et nous nous épuisons. Nous sommes ici rassemblés devant la face de Dieu pour entendre ce qui a été prêché et expérimenté au commencement pour l'accueillir, le recevoir dans la foi afin de vivre les mêmes expériences. Regardez, là aussi, il faut peut-être encore dire une parole. Lorsque nous regardons certaines circonstances, certaines personnes ou certains événements où les choses ne se sont pas bien passées et que nous en arrivons peut-être à la conclusion et disons, si c'est le résultat, alors je peux m'en passer. Pas moi. Pas moi. Et là, vous pouvez tous lire de tout cœur le chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. Même s'il y a des gens qui s'éloignent, qui tombent, qui ont reçu le Saint-Esprit, après avoir reçu le Saint-Esprit, qui ont goûté même aux puissances du monde à venir et qui ont reçu la précieuse parole de Dieu, s'ils finissent par suivre ensuite leur propre chemin, cela ne m'empêche pas de m'en tenir, moi, à Dieu et de vivre ce qu'il a promis. Notre modèle, ce ne sont pas les choses qui tournent mal. Notre modèle se trouve ici, dans la parole de Dieu. Et je pense que le Seigneur nous accordera la grâce de trouver ces jours, c'est le véritable équilibre en toute sobriété, mais néanmoins avec une ferveur intérieure devant la face de Dieu. Je voudrais le répéter, ne regardons pas les choses qui ont mal tourné et qui se sont passées d'une manière ou d'une autre. Regardons le Seigneur. Ne dites pas, oui, regardez, il a été baptisé du Saint-Esprit. Oui, elle a été baptisée dans l'Esprit. Et a fait ceci ou cela ensuite. Ne faites pas cela. Regardez le Seigneur. C'est lui qui baptise d'Esprit et de feu. C'est lui qui mène son Église à la perfection. Certes, si nous regardions les choses d'un point de vue terrestre, nous pourrions dire, oui, combien sont baptisés de l'Esprit? Rien que sur la côte ouest des États-Unis, ils sont plus de 6 millions et ils suivent tous leur propre chemin. Ils se moquent des vérités bibliques. Mais laissez-les partir, laissez-les aller leur chemin. S'ils ont goûté à la gloire céleste, mais ne se laissent pas conduire ensuite par le Saint-Esprit dans toute la vérité, alors Dieu doit aussi les laisser partir. Mais nous voulons être conduits dans toute la vérité. Nous voulons faire l'expérience de Dieu. L'expérience avec Dieu, mais pas seulement pour pouvoir montrer ensuite aux autres que nous avons expérimenté Dieu de cette manière. Non, nous sommes prêts à ensuite parcourir tout le chemin avec lui, dans l'obéissance, à croire toute la parole de Dieu et à faire l'expérience de tout ce qu'il a promis dans sa parole. Dans Matthieu 3, on trouve la célèbre parole du sermon de Jean-Baptiste qu'il a prononcé ici, Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12. Je vous baptise seulement d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui ôter ses chaussures. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset 12. Il a son vent dans la main et il nettoyera son air. Il recueillera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Tout est donc entre ses mains. Il n'y a pas de prédicateur qui aurait à balayer l'air, qui aurait l'appel à balai dans sa main. Non, c'est le Seigneur, lui seul et personne d'autre. Nous dépendons tous de sa grâce et personne ne peut juger ou condamner autrui. Si Dieu n'avait pas été miséricordieux envers nous, nous ne serions pas tous ici et aujourd'hui. Nous ne serions pas tous ici aujourd'hui et nous ne serions pas tous sur le chemin qui mène à la vie. Tout est grâce de notre Dieu. Le jour de la Pentecôte, comme l'avons déjà mentionné, l'Esprit de Dieu est tombé sur le premier groupe, sur le premier troupeau, sur nos frères et sœurs. Et rappelez-vous, Dieu fait produire chaque semence selon son espèce, tout comme les premiers fils et filles de Dieu sont nés de la rosée de l'aurore, comme le dit le psaume de l'Ancien Testament, psaume 110, verset 3, Dieu a fondé son Église de manière surnaturelle le jour de la Pentecôte, a fait tomber son esprit, et c'est ainsi que cela s'est produit. Je le lis, c'est écrit ici. Vous le savez tous, je lis le verset 3 du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Acte 2, verset 3. Et il leur apparut des langues comme de feu qui se divisèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Ils étaient environ 120 et ce ne sont pas 10 ou 50 qui ont été baptisés dans l'Esprit, mais chacun d'eux, sans exception. Croyez-le, cette expérience est pour tous ceux qui sont devenus croyants et qui suivent le Seigneur. Je le relis, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, se répartissant et venant se poser sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous, pas seulement certains, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ce qui est écrit. Dites tous Amen. Cela peut se produire de temps en temps. L'amen ne se réfère pas à celui qui lit ici, mais à ce qui a été lu. Amen. Nous avons un consentement intérieur et aucune résistance dans nos cœurs. Voulons-nous que Dieu se révèle? Est-ce une préoccupation qui nous tient à cœur que l'Église soit revêtue de la puissance d'en haut? Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous avions pu le faire nous-mêmes, nous l'aurions fait depuis longtemps. Je l'ai lu. Le Seigneur dit, ce n'est ni par la puissance militaire, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est ce qui s'est passé le jour de la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Mes chers amis, nous nous approchons maintenant de la même situation, des mêmes expériences, des mêmes manifestations de puissance et des mêmes révélations du Saint-Esprit maintenant à la fin. Et nous devons porter dans nos cœurs une foi véritablement biblique afin qu'il n'y ait plus la moindre résistance en nous, mais que nous puissions, dans tous les cas, approuver de tout cœur tout ce qui est écrit dans les Écritures. Dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres, Philippe a vécu de grandes choses avec Dieu et avec ceux qui sont devenus croyants. De grands miracles et des signes se sont produits. Mais voyez, il n'était pas destiné par Dieu comme Jean et Pierre à aller plus loin. En tant qu'évangéliste, il avait pour ministère d'annoncer l'évangile. Les malades ont été guéris, puis ils ont été baptisés, et c'était tout. C'était tout. Comme nous pouvons être reconnaissants que tout n'est pas été fait par une seule personne, mais que Dieu ait réparti les dons et les ministères dans l'Église. Sinon, l'apôtre pourrait dire, je n'ai pas besoin de l'évangéliste. Et l'évangéliste, je n'ai pas besoin de l'apôtre. Dieu a établi les ministères dans l'assemblée. Et si nous avons été établis par Dieu, nous reconnaîtrons tout d'abord que nous avons également besoin des autres frères que Dieu a établis et que nous ne sommes pas là pour faire tout. Pour tout faire. Avons-nous également bien compris cela? Dieu a réparti ainsi les tâches dans son corps afin que chacune puisse être accomplie, mais pas par une seule personne, s'il vous plaît. Mais par tous ceux qui ont été désignés par Dieu pour cela. Il est dit ici dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres, au verset 15. Chapitre 8, verset 15, Actes des Apôtres. Après leur arrivée, ils prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, verset 16, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils leur imposèrent donc les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. La chose n'est pas décrite plus en détail ici, mais Simon a vu que les dons de l'Esprit étaient accordés par l'imposition des mains ou par l'effusion de l'Esprit, et il a alors soudainement voulu recevoir un tel don. Pierre le repoussa en disant qu'il était plein de fiel et d'amertume, et qu'il était tombé dans les liens de l'injustice. Acte 8, verset 23. D'abord, la repentance, le baptême d'eau, puis le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, l'ordre peut parfois être modifié si Dieu le veut et si rien d'autre n'est possible, de sorte que le baptême de l'Esprit précède le baptême d'eau. Mais une chose est sûre, le baptême d'eau suit. Le baptême d'eau suit. Nous le voyons dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, verset 44. Acte 10, verset 44. Tandis que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Verset 45. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et louer Dieu. Nous n'avons pas ici affaire à une église qui avait déjà reçu le baptême de l'Esprit. Nous avons ici affaire à des personnes qui venaient d'arriver, qui étaient nouveaux, à qui l'évangile avait été prêché pour la première fois et qui avaient reçu le baptême de l'Esprit. Et c'est pourquoi la description de ce qui s'est passé est toujours très claire. Car ils les entendaient parler en langue et louer Dieu. Alors Pierre dit, verset 47, quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Comme nous? Verset 48, il leur donna donc qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils le prièrent alors de rester quelques jours avec eux. C'est la sainte parole de Dieu ici. Je voudrais réitérer ma demande. Détournez-vous de tout ce que les hommes croient et font, de toutes les traditions, les credos et de tout ce qui n'est pas conforme à la parole. Veillons à ce que notre vie de foi personnelle soit orientée vers la Bible et qu'en lien avec le baptême dans l'Esprit, nous attendions ce que nos frères et sœurs ont vécu lorsqu'ils ont reçu la même chose. Êtes-vous d'accord avec cela? Il n'y a pas d'autre solution. Vous attendez-vous à ce que je prêche un autre évangile que celui que Pierre et Paul ont prêché? Certainement pas. N'est-ce pas? Alors, réjouissez-vous que la pure vérité, les vérités apostoliques aient été remises sur le chandelier dans cette génération. Réjouissez-vous que nous puissions faire une expérience, une nouvelle expérience réelle avec Dieu. Je vous le dis, nous ne partirons pas les mains vides. Dieu confirmera sa parole. Il ne peut pas faire autrement. Il doit être avec les derniers et faire comme il était et a fait avec les premiers. Où notre foi pourrait-elle reposer autrement? Rien, bien sûr. Nous attendons aussi le rétablissement de toutes choses, comme cela nous a été promis, et le temps du rafraîchissement de la face du Seigneur. Et tout y sera contenu dans cela. Notre bouche continuera à proclamer les grandes œuvres de Dieu. Notre langue continuera à être au service de Dieu. Dieu aura un peuple sur terre, une église de premier-nés, loin du Saint-Esprit, revêtue de la puissance d'en haut, afin que nous puissions encore clairement expérimenter la confirmation de sa parole. Dans le chapitre 11 des Actes des Apôtres, le verset 12 nous rapporte, le chapitre 12 nous rapporte, c'est Pierre qui parle ici. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 12. Et l'Esprit m'a ordonné de les accompagner sans hésiter. Sans hésiter. L'Esprit m'a ordonné de les accompagner sans hésiter, mais ces six frères qui sont ici m'accompagnaient aussi. Et nous sommes entrés dans la maison de cet homme. Verset 13, il nous a alors raconté comment il avait vu l'ange dans sa maison qui se tenait debout et lui avait dit, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, verset 14, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Verset 15, et lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Il ne peut en être autrement. Il faut s'en tenir à ce modèle. Nous en avons parlé ici il y a quelque temps. Il fut dit à Moïse, veille à faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Exode 25, 40, Hébreux 8, 5. Noé a fait tout ce qui lui avait été demandé. Genèse 6, verset 22. Dieu a un modèle. Dieu avait une église modèle. Et ce même modèle s'applique à nous dans ce temps. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire autrement. Et j'ajouterai même, nous ne voulons pas faire autrement. Nous ne voulons rien d'autre. Nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes. Mais nous voulons être là où sont nos frères qui ont fait l'expérience avec Dieu. Mais écoutez maintenant, verset 15. Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. C'est bien là le point essentiel. C'est Pierre qui faisait partie des 120 le jour de la Pentecôte qui parle ici et il dit, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu au commencement. À moins qu'on puisse dire ici exactement la même chose, que nous avons reçu le Saint-Esprit comme il a été reçu là-bas au commencement, avec le même effet, avec les mêmes signes, avec tout ce qui va avec, avec tout ce qui accompagne l'expérience surnaturelle, ce que Dieu a accompli de manière surnaturelle. Et imaginez à quelle parole Pierre pensait à ce moment-là. Il le dit ici lui-même, au verset 16. Alors, je me suis souvenu de la parole du Seigneur. Quand il disait, avez-vous remarqué? Il ne pensait pas à ce que quelqu'un avait dit, il pensait à la parole du Seigneur. Quand il s'agit d'expériences bibliques, pensons toujours à la parole du Seigneur et posons-nous la question, qu'en dit l'Écriture? Et alors nous aurons la réponse divine. Sinon, nous aurons la réponse de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas celle que nous voulons la réponse divine. La réponse. Au verset 16, alors je me suis souvenu de la parole du Seigneur. Alléluia. Loué soit Dieu. Je voudrais vivre cette journée en ce lieu où nous pensons tous à la parole du Seigneur, à la parole du prophète Joël, à la parole du prophète Ésaïe, à la parole du prophète, ou bien alors par les prophètes Ésaïe. Joël, la parole du Seigneur, dite par Zacharie à la parole des Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 19, à la parole de notre Dieu. Combien d'entre vous souhaitent que les Actes des Apôtres se répètent? Je le relis encore une fois, puis jusqu'à la fin. Verset 16. Alors je me suis souvenu de la parole du Seigneur qui disait, Jean a baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, c'est ce que nous avons lu. Mais il a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ce que Jean a dit aussi. Nous voyons donc que dans les Actes des Apôtres, il y a une image vraiment claire, limpide, pour tous ceux qui veulent la voir. Et heureux celui qui peut y adhérer intérieurement de tout son cœur. Heureux celui qui dit, Seigneur, tu l'as promis, je le crois, je crois ce que dit l'Écriture. Qu'a dit notre Seigneur dans Jean 7 à ce sujet avec l'expression « comme le dit l'Écriture » Jean 7, versets 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écriait à haute voix. C'était donc important. C'était très important. Il a élevé la voix. Il s'est écrié à haute voix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 18, celui qui croit en moi, comme l'Écriture l'a dit, de son sein coulera des fleuves d'eau vive. Il donne immédiatement l'explication. Il parlait ainsi de l'Esprit, verset 39, que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit Saint n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Tout est ordonné selon la Bible. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dieu voulait déverser des fleuves sur une terre aride. Dieu voulait donner la pluie et la bénédiction à sa semence. Il voulait la répandre, il voulait la lui donner. Si nous sommes la semence divine, et il ne peut pas produire deux choses différentes, il produit selon son espèce. Lui le premier-né, nous les premiers-nés, lui le Fils de Dieu, nous les filles et les filles de Dieu. Et Paul l'écrit clairement dans Romains 8, parce que nous possédons l'Esprit, comme premier fruit, mais bien aimé, c'est nécessaire. Nous devons faire cette expérience avec Dieu, puis le suivre ensuite dans la fidélité. C'est très important. L'expérience du baptême du Saint-Esprit ne garantit à personne d'être enlevé. Ceux qui ensuite persévèrent jusqu'à la fin, ceux qui suivent Dieu maintenant dans l'obéissance après avoir fait l'expérience. Mais commençons bien avec Dieu, comme l'Écriture l'a dit, afin que nous puissions nous souvenir des paroles de la promesse lorsque cela nous arrivera. Pouvez-vous croire que cela arrivera? Je le crois. Nous devons simplement nous ouvrir un peu, faire davantage confiance au Seigneur, le remercier, mettre de côté l'incrédulité et les doutes, et simplement dire, Seigneur, tu es mon Dieu, tu l'as promis, je le crois, et tu le feras. Vous verrez, dans une confiance totale en notre Dieu, cela arrivera. Et nous le louerons encore pour ce qu'il a fait pour nous et en nous. Et puis, chers frères et sœurs, si notre expérience correspond exactement à celle de nos frères et sœurs au commencement, quelle certitude envahit alors notre cœur? Si nous devons encore chercher quelque chose pour nous donner une certitude, c'est que cette chose n'est pas encore là. Quand elle est là, nous n'avons plus besoin de la chercher, nous l'avons. Et je souhaite vraiment que tous les frères et toutes les sœurs expérimentent Dieu de cette manière, par une puissante effusion de son Saint-Esprit, qu'il puisse occuper pleinement toute notre vie, se saisir pleinement de toute notre vie, que personne ne vive plus pour lui-même, mais que parce que nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui, nous puissions marcher avec lui dans une vie nouvelle et le laisser agir comme il le souhaite. Ce n'est pas par la puissance militaire ni par la force que cela se fera, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Nous ne pouvons que dire, Seigneur fidèle, fais-le encore une fois. Répands encore une fois ton esprit sur ta semence. Accorde-nous un temps de rafraîchissement. Réveille-nous de la puissance d'en haut, notamment pour la tâche que Dieu nous a confiée à lui, notre Seigneur fidèle. Soit toute la gloire, toute la louange et toute la reconnaissance et l'honneur. Je crois de tout mon cœur que l'époux comblera son épouse de sa propre vie, remplira son épouse de sa propre vie. Et nous avons aussi besoin de l'Esprit pour qu'enfin, comme il est écrit, et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Esprit et l'épouse seront amenés en parfaite harmonie et rendront témoignage à la parole de Dieu. Notre Seigneur est fidèle. Il a fait des promesses. Il les tiendra. Que son nom, que son saint nom soit loué et glorifié. Amen. Levons-nous et remercions ensemble le Seigneur qui a un refrain qui conviendrait. Viens d'en haut. Viens d'en haut. Viens, Esprit du Seigneur. Souffle. Souffle, oh, et ne reste pas loin. Souffle et souffle, oh, ne reste pas loin. Que le feu divin descende. Tu nous es précieux. Don céleste. Tu nous es précieux, don céleste. Tous ensemble, baptise-nous d'en haut. Que nous voyons que ta sainte flamme soit visible sur nous, que ta sainte flamme soit visible sur nous. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole que tu nous as conservée jusqu'à aujourd'hui. Seigneur bien-aimé, non seulement la parole avec toutes ses promesses, mais aussi les mêmes expériences que nous attendons de toi et que nous recevrons. Dieu fidèle, tu es Dieu et non un homme. Nous pouvons te faire confiance. Nous pouvons te croire. Nous pouvons compter sur toi. Seigneur bien-aimé, tu feras tout bien. Tu mèneras ton Église à une issue glorieuse. Sauveur fidèle, je ne veux pas seulement te demander, mais aussi te remercier. Te remercier d'envoyer la pluie de l'arrière-saison. Te remercier que tu en verras la pluie de l'arrière-saison, comme tu as envoyé la pluie de l'avant-saison. D'avoir répandu ton esprit sur ta semence, Seigneur, pour nous donner de nouvelles langues, afin que nous puissions te louer et te glorifier, et plus encore, pour que nous soyons scellés par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption de notre corps. Ô Seigneur, tu feras tout ce qui doit encore être fait avant ton retour. Nous sommes ici rassemblés devant ta face, que l'onction sainte, le revêtement de puissance, le sceau divin, la vie divine, les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, la vie de Dieu se manifeste dans ton Église pour la louange et la gloire de ton saint nom. Envoie ton esprit avec puissance, confirme ta parole et accorde-nous à tous cette expérience du baptême du Saint-Esprit, comme cela s'est produit au commencement. Seigneur bien-aimé, nous t'offrons dès aujourd'hui notre louange, notre reconnaissance du fond du cœur. Tu as un troupeau racheté par ton sang qui croit en ta parole et qui est conduit par le Saint-Esprit et dirigé et guidé par ton Saint-Esprit. Seigneur bien-aimé, nous voulons tout. La conduite de l'Esprit, la direction de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, l'action de l'Esprit. Nous voulons tout ce que tu as promis. Nous voulons en faire l'expérience. Merci de nous permettre d'y compter. Et ce, très prochainement. À toi, Dieu Tout-Puissant, nous rendons encore une fois grâce du fond du cœur pour Golgotha, pour la résurrection dans tes morts, pour l'effusion de ton Saint-Esprit, pour tout en général. Cela s'est produit pour nous. Nous pouvons y prendre part. Laisse-nous être crucifié avec toi, mourir avec toi, être en ce veli avec toi, ô Seigneur, et renaître avec toi à une vie nouvelle. Tu voulais nous donner de nouvelles langues, de nouveaux cœurs, une nouvelle vie, un nouvel esprit. Seigneur, bien-aimé, nous te louons ensemble, nous élevons ton nom et te glorifions. Dieu fidèle, lève ton visage sur nous et donne-nous ta bénédiction. Je te remercie aussi de tout cœur pour la bénédiction de cette réunion. Alléluia. Tu as donné la clarté à beaucoup. Tu as répondu à tant de questions. Et tu as remis les choses en ordre. devant nos yeux par ta parole et dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Merci pour cela, Seigneur bien-aimé. Voici la fin de notre chemin, de notre vie, de nos pensées. Voici le commencement avec toi, Dieu vivant. Nous te remercions, nous te louons. Tu agis déjà parmi nous par ton Saint-Esprit. Je prêche ta victoire. J'annonce ta victoire, la victoire de Golgotha. Alléluia. Et je te loue de tout mon cœur et de toute mon âme. Alléluia. Alléluia. À ton nom merveilleux et saint. Alléluia.
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 Amen.
Amen.